Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de Toulouse Métropole. La période dite de la réserve électorale est désormais derrière nous. Nous pouvons donc de nouveau évoquer dans cette émission les grands sujets et les grands projets métropolitains. Le plus grand projet en cours actuellement sur le territoire de Toulouse Métropole, c'est bien sûr le chantier de la troisième ligne de métro. Lorsqu'on circule dans la ville rose, dans quelques-unes des communes périphériques, on en voit les traces dans certaines rues, celles où des stations vont voir le jour sur le tracé de cette future ligne. L'échéance annoncée pour cette ouverture, sa mise en service au public, c'est fin 2028, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 ans et demi. Il m'a donc semblé que le moment était bien choisi pour faire un point sur l'avancement du chantier et les travaux en cours. Y a-t-il eu des aléas, des imprévus? Le timing est-il bien respecté? Et donc la date de mise en service annoncée est-elle toujours d'actualité? Nous allons voir ça avec l'invité de cette émission, Jean-Michel Latte, président de Tisséo Collectivité. Bienvenue à vous aussi Jean-Michel Latte, heureux de vous revoir dans nos studios, ce n'est pas une première, vous les connaissez bien.
Bonjour.
Je vais préciser que vous êtes aussi adjoint au maire de Toulouse, également président de la commission mobilité de Toulouse Métropole. Et avant de faire le point sur le chantier et les travaux en cours, je voudrais qu'on rappelle ce que sera le trajet et les zones desservies par la troisième ligne de métro, ses connexions avec les lignes A et B, ainsi qu'avec le tramway.
Alors on peut faire une petite promenade dans ce trajet-là. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ligne, elle fait le double des deux autres lignes. C'est la ligne A plus la ligne B, finalement, hein, ce qui est considérable, 27 km, 21 stations. Alors, on va partir d'un côté de la Belge Gare, on passe par l'INP, ce qu'on appelle l'INP, on bascule sur Montaudran. Alors, ce qui est important de voir, c'est que sur la Belge Gare et sur Montaudran, on a des connexions SNCF, ce qui sera important pour l'avenir. On bascule ensuite vers ce qu'on appelle couramment la côte pavée, avec la place de l'Ormeau, avec les Meyrac, avec la descente vers Jean-Rieu, et puis on se retrouve à l'endroit le plus important peut-être de la ligne, c'est la station qui est située à l'intersection entre la ligne B et la ligne C, c'est-à-dire François Verdier. C'est une station un peu particulière, c'est là qu'on a déplacé le monument aux morts, qu'on l'a fait rouler sur 30 mètres pour permettre le chantier. Il reviendra d'ailleurs à sa place une fois le chantier terminé. Et puis de là, on repart vers la gare, station aussi très importante où on aura une connexion avec la ligne A, et on l'espère bientôt l'arrivée du TGV, la LGV. Et de là, on repart vers Bonnefoy. Bonnefoy, on redescend, si tant est qu'on puisse parler de redescendre, vers les Minimes, et on bascule vers le nord toulousain avec la station dénommée La Vache, qui est à proximité du Mine. On repart vers le boulevard de Suisse, et là, on est à une station qui m'est chère, qui est la station Sept-Deniers-Stade Toulousain, qui va révolutionner les matchs quand on ira directement en métro voir le rugby. Puis on part vers Blagnac et Colomiers. Colomiers étant la station finale, avec là encore une connexion SNCF. Il y en a une aussi à La Vache.
Oui, effectivement, cette station Sept-Deniers est importante parce que jusqu'alors, lorsqu'on voulait aller voir les matchs du Stade Toulousain au Stade Ernest Vallon, c'était quand même assez loin. Il fallait marcher beaucoup pour aller de la station de métro au stade.
Oui, là, ça sera direct.
Quel est le nombre plutôt d'utilisateurs estimés au moment du lancement de la troisième ligne fin 2028? Et donc à partir de là, les impacts et les bénéfices attendus sur les autres moyens de déplacement, la voiture en particulier?
Alors on a une estimation qui a été évaluée quand on a commencé à lancer les études, c'est-à-dire vers 2014, 2015, 2016, où on a travaillé sur des modélisations. Et on estime à la mise en place qu'on sera à 200 000 voyageurs jour. Actuellement, la ligne A et la ligne B font chacune autour de 220-230 000 voyageurs jour. Alors, il faut toujours se méfier des statistiques. Quand on a lancé la ligne A, à l'époque Dominique Boudis, on annonçait 130 000 voyageurs jour dans les mois qui viendraient. Dès le premier jour, le chiffre a été atteint. Donc, il faut être modeste par rapport à ça, mais on espère 200 000. 200 000 pour nous, pour répondre à votre question sur l'automobile, ça correspond à 90 000 trajets de voiture.
En moins.
En moins chaque jour. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Avec une réorganisation du réseau bus, puisque bien sûr la ligne C va entraîner la suppression de lignes de bus qui sont en fait réorganisées pour rabattre vers la ligne le maximum de population.
Et donc, il y aura forcément aussi un impact sur la qualité de l'air. Je ne sais pas si ça a été évalué.
Bien sûr. On a une autorisation environnementale qui nous a été donnée, qui était décisive. Hein. Si on ne l'avait pas eu, on n'aurait pas pu faire cette ligne. Et bien entendu, le passage à une énergie électrique par rapport aux voitures, ça sera quelque chose de beaucoup mieux, même si l'électrique progresse au niveau des voitures elles aussi.
Tout ça dans le sens de l'électrification du voilà. pays, ce qui n'était pas forcément le projet de départ, mais en tout cas, ça sera une des conséquences.
Ça l'est devenu.
Le budget global du chantier de la troisième ligne, il a évolué comment? Il est toujours celui qui a été annoncé il y a maintenant un an ou deux?
Alors c'est un budget de 3,2 milliards, c'est ce qui a été annoncé il y a un an ou deux. C'est un gros, gros budget, bien sûr, mais le chantier est le plus grand chantier qu'ait jamais connu Toulouse. On n'a jamais eu un aussi gros chantier. On a 42 sites qui sont actuellement en chantier, stations, sorties d'air, etc., etc. Et c'est très considérable, donc on est sur 3,2 milliards.
Donc il n'a pas été revu à la hausse, ne serait-ce que ces derniers mois, avec l'évolution des tarifs de l'énergie et même de certains matériaux.
Non, Sacha Briand fait tous les 6 mois presque des points financiers d'évaluation et les derniers points, qui sont d'ailleurs validés par les agences financières, sont sur cette base de 3,2 milliards.
Alors le chantier aujourd'hui de cette troisième ligne, où en est-il? Est-ce qu'il a suivi depuis le début son cours normal? Est-ce qu'on n'a pas de retard? Il n'y a pas d'imprévu? Et donc l'échéance fin 2028 est maintenue.
Alors les tunneliers avancent. Le premier tunnelier, celui qui venait de Montaudran jusqu'à Port-Saint-Sauveur, a été extrait, il est sorti, on l'a démonté juste avant Noël. C'était celui qui allait le plus vite. On a un second tunnelier qui est actuellement sous François Verdier. Il devait passer ces jours-ci sous François Verdier et lui, il va basculer lui aussi ensuite vers Port-Saint-Sauveur pour être démonté à son tour. Et puis on a les trois tunneliers qui sont sur la partie entre la Vache, Grand Marché et Colomiers. Trois qui sont plus en retard par rapport aux deux précédents. On a eu quelques problèmes d'extraction de terre. Mais c'est un peu l'enjeu quand on a géré un chantier comme ça, on gère des imprévus. Et on a eu des imprévus. Le premier imprévu qu'on a eu, c'était sur la place de Lormeau, la station de Lormeau, où on avait des murs porteurs qui ont été à revoir, et Bouygues a doublé les équipes pour ne pas perdre de temps. On a eu l'accident du viaduc avec un tragique décès. Et là encore, Bouygues a compensé le temps perdu dans l'interruption du chantier. On a eu, on en parlait tout à l'heure, le faubourg Bonnefoy avec une maison qui a été fragilisé et qui nous a amené à revoir d'ailleurs les process parce qu'il y avait des poches de sable qui étaient non identifiées. Et puis on a, sur le trajet du boulevard de Suisse, du garage atelier, eu un problème d'amiante où on a trouvé beaucoup trop d'amiante que ce qui était prévu. Et le dernier souci que l'on traite en ce moment, c'est l'extraction des terres. Les tunneliers qui sont en fonctionnement ne vont pas assez vite ou n'allaient pas assez vite parce que ça a été corrigé. Parce que la terre extraite était trop lente à sortir, donc il ne fallait pas aller trop vite, sinon on bourrait le système. Voilà. Mais ce sont des incidents inévitables sur des grands chantiers. J'en parlais l'autre jour avec un élu régional qui me disait que sur un lycée, ils avaient eu 2 ans de retard. Voilà. Donc sur un chantier comme la ligne C, on peut imaginer que les choses sont parfois complexes.
Alors vous l'avez évoqué, on a entendu parler sur ce trajet de la troisième ligne, d'habitants qui ont été obligés de quitter leurs appartements pour risque d'effondrement des immeubles où ils résident en raison de mouvements de terrain dus aux travaux ou de vibrations. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Quelle est leur situation et leur prise en charge aujourd'hui?
Alors la plus exposée, c'était cette dame qui vivait dans la maison, qui a connu l'incident d'effondrement et qui est relogée par nos soins. Elle est contente, elle est restée dans le quartier. Elle souhaitait rester dans le quartier. Elle a eu une phase intermédiaire le temps qu'on trouve un site, mais c'est elle qui l'a choisi. Et c'est nous qui prenons en charge, bien sûr, ce genre de situation. Et on a actuellement une petite dizaine de personnes qui sont dans les maisons qui sont à côté et qui sont actuellement logées. Et on a un suivi permanent de leur situation. Bien entendu, on s'est empressé de prendre en charge toutes les difficultés qui pouvaient naître de cette situation.
Évidemment, qui sont liées au fait d'être obligé de se reloger et parfois même de renouveler sa garde-robe parce qu'on ne peut pas rentrer chez soi.
Exactement, tout a été évalué et pris en compte par rapport à ça.
Le retour chez eux est prévu quand? Il y a des dates pour
Alors
ça?
C'est variable selon les personnes. Je vous dis, la dame qui est partie souhaite rester là où elle est maintenant parce qu'elle s'y trouve bien, elle est dans le quartier. Il y a des cas particuliers, il y en a qui étaient des locataires, donc ils sont partis dans d'autres sites, ils ont loué ailleurs. Il y en a d'autres qui sont propriétaires et qui soit souhaitent rester, soit souhaitent partir. Et donc c'est en fonction de leur choix que les équipes de TCO accompagnent ce type de process.
Pour revenir au chantier global, quelles phases ont été réalisées jusqu'alors et quelles sont celles qui sont actuellement en cours?
Beaucoup d'étapes ont été franchies. Si je prends la situation de la Bège c'est en extérieur, le viaduc est terminé, on en est à la pose des rails sur le viaduc en cause, et comme on est sur une fin de grosse œuvre, on est actuellement, c'est là que c'est le plus spectaculaire, dans la construction des stations. Si vous passez à la Bège, vous verrez qu'il y a d'immenses stations qui sont en extérieur et qui sont quasiment terminées. C'est le second œuvre, avec bien entendu ce qui va suivre, carrelage, etc. Sur la partie Montaudran, on l'a dit, le tunnelier a terminé son travail, et donc les stations Limeyrac, Jean-Rieux et Lormeau sont en plein second œuvre, là aussi. Aménagement des stations, et puis on a progressivement toutes les autres stations qui basculent de cette notion de grosse œuvre à la notion de seconde œuvre. Il nous reste donc encore trois tunneliers qui doivent terminer leur travail, mais pour autant, beaucoup de choses se passent en ce moment en même temps. Il est un endroit qui est peu connu et qui pourtant est absolument incroyable visuellement, c'est le garage atelier situé derrière les Sept Deniers, qui est, je dis toujours, la cathédrale de la ligne C, qui est un endroit tout à fait incroyable, qui est bien avancé. C'est là qu'on a commencé à souder les rails. On est sur ces phases-là. On est dans une phase où on bascule du gros œuvre vers le second œuvre et où on commence à parler de l'insertion des systèmes. Alstom, le systémier, est en train de préparer le développement de ces systèmes parce qu'on est sur un système qui est complexe avec des choses très très difficiles à évaluer. Donc on est sur ça. Je suis allé il y a quelques mois à Valenciennes voir tourner les premières rames de la ligne C. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que la rame est telle qu'elle sera dans Toulouse, donc elle est finie et on la teste sur la vitesse, sur l'automatisme, etc., etc. Elle est aux couleurs choisies par Tisséo, tout est sur le point d'avancer. Donc on est sur cette phase-là qui devrait nous amener jusqu'en 2027. En 2027, le second œuvre, les équipements doivent être en place et là on a une année de test. Parce que c'est un système automatique et que les validations à la fois techniques et juridiques passent par une année de tests qui
Donc
devrait
toute
nous
l'année
amener.
2028 va être consacrée à tous ces tests
Exactement,
et
exactement.
qui concernent quels équipements en fait? Il y a l'informatique, il y a la sécurité, il y a, je sais pas, la sécurité s'il y a un risque d'inondation d'une station.
On a sur le garage atelier ce qu'on appelle un PCC, c'est-à-dire un endroit où tout se gère, qui est le cœur battant
Le cerveau un
de
peu.
voilà, tout vient de là. On ne le mesure pas assez, mais la complexité des métros aujourd'hui, c'est l'automatisme. Et c'est d'ailleurs une grosse part du coût, hein, on pense toujours au béton, on oublie les automatismes. Donc c'est ça qui va être testé pendant un an, c'est la durée d'homologation normale de ce
Prévu.
type d'outil, comme ça peut l'être à Paris ou dans d'autres capitales.
Ça peut générer aussi des retards éventuellement sur la mise en service de la ligne.
Alors ça pourrait techniquement, théoriquement, mais le risque est assez limité parce qu'on a pris un système qu'Alstom développe sur le monde entier et à plusieurs dizaines d'exemplaires, donc ce n'est pas un truc tout à fait nouveau. Lille a eu de gros soucis parce que Lille a voulu innover avec des systèmes qui n'avaient jamais été testés auparavant. Nous, on a préféré des systèmes bien confirmés et donc il n'y a pas de raison qu'à Toulouse ne fonctionne pas ce qui fonctionne déjà bien dans le monde entier.
Donc, il y aura 22 km de tunnel en tout, 17 stations souterraines, 4 stations aériennes. Vous avez évoqué les travaux dans Toulouse, mais il y en a aussi dans certaines communes
Bien
périphériques.
sûr.
Alors, par exemple, à Blagnac, on a eu très récemment d'ailleurs.
Oui.
Est-ce qu'à Blagnac, c'est à peu près terminé les travaux?
La partie tunnelier n'est pas tout à fait terminée. Donc, on a un tunnelier qui avance vers Blagnac. Mais ça va assez vite. Blagnac, c'est une station très particulière parce qu'elle est à la croisée des chemins. On y trouve la ligne C, c'est une nouveauté.
Le tramway.
On y trouve le tram. On y trouve ce qu'on appelle le tramway aéroport, qui est le tram qui va être inauguré à la fin de l'année. À la fin de 2026, on inaugure ce dispositif-là. Et on y trouve toute une série de terminus de bus qui font de cet espace un espace très très consacré à la mobilité. Voilà, on a parlé de la ligne C, mais il y a deux autres chantiers qui sont en cours. Je viens de parler de la liaison aéroport, qui va être intéressante parce que les livrées, les couleurs de ces rames seront les mêmes que les bus électriques. Et puis on a la prolongation de la ligne B, qui elle sera inaugurée à la fin 2027, qui a très très bien avancé. Actuellement, ils sont en train de finir la pose des rails. Et donc on aura la possibilité, à partir de la ligne B, à l'intérieur de la ligne B, d'aller plus loin et d'aller jusqu'à la Bège.
Il y a Colomiers aussi qui est concerné donc par la ligne C. Alors je ne sais toujours pas s'il faut dire 3MI ou l'INSEE. Ça sera l'INSEE
C'est l'INSEE,
finalement.
ABC.
Voilà, ça paraît logique, mais bon, c'est mieux de
Il y
le
a eu beaucoup de
préciser.
noms, hein. On appelait la ligne Express. Il y a eu beaucoup de... La terminologie a été votée il y a 2 ans environ. On l'appelle l'INSEE.
Colomiers, donc, il y a des travaux qui ont été récemment lancés à Colomiers-Gare. Ils sont de quelle nature ?
Alors, il y a plusieurs chantiers qui sont lancés sur Colomiers-Gare. Il y a bien entendu l'accès voiture, etc., etc. Mais il y a un grand parking terminus qui fait 500 places, qui va être particulièrement esthétique, je pense. Et puis, on a sur Colomiers le lancement de tunneliers qui s'effectue, le renversement. Enfin, c'est une base technique par rapport à ça. À proximité d'une autre station qui, elle aussi, est importante, qui est la station Fontaine Lumineuse, qui est la seconde station de Colomiers, qui, elle, est en connexion en particulier avec les grandes usines Airbus.
Et puis, il y a des chantiers en dehors de la métropole toulousaine, mais vraiment accolés. Vous avez évoqué la Beige Gare notamment, et Ramonville également.
Alors, Ramonville est très directement concerné par la prolongation de la ligne B. C'est le PLB, hein, puisqu'il y a deux stations qui sont en train d'être créées. Une station autonome, qui est la station du Bikini, hein, pour faire simple, puisqu'elle permettra à ceux qui vont au Bikini d'y aller directement. Et puis, il y a la station mixte de la Beige, où on aura la connexion entre les rames de la ligne C et les rames du PLB. C'est une énorme station, parce qu'il faut qu'on arrive à juxtaposer ces deux dispositifs.
Vous parliez, il y a quelques instants, de ce grand parking donc, qui va être construit à proximité de Colomiers-Gare. Il y a d'autres aménagements qui sont prévus aux abords des stations et ils vont débuter aussi en 2026. Ce sont lesquels et en quoi ils consistent ?
Alors, il y a les autres garages, les autres parkings
parking.
Plutôt. Parking. J'ai parlé de Colomiers, il y aura celui de Fontaine Lumineuse, il y a celui de La Vache et celui de La Beige-Gare qui est le plus gros puisqu'il fait 1000 places, celui de La Beige. Donc, on a une capacité de stationnement importante. On va renforcer les autres stationnements d'autres lignes de métro. Hein. On a un gros travail qui est lancé sur Bordeaux Rouge, par exemple. C'est une des questions clés. La réussite passe par l'accessibilité. Si on ne peut pas accéder au métro, ce sera difficile. On travaille sur des parkings, mais pas que. On travaille aussi sur des liaisons bus, on travaille aussi sur d'autres thématiques équivalentes.
Puisque vous en parlez, tout cet aspect multimodal, parce qu'il y a un plan global dans lequel, évidemment, la ligne C va être un moyen de déplacement extrêmement structurant, mais autour, il va y avoir des connexions avec d'autres moyens de transport, donc les bus, le réseau Linéo, et puis les stations Vélo-Toulouse.
Les stations Vélo-Toulouse, Vélo-Toulouse, on ne le sait pas toujours, c'est géré par Tisséo. C'est Tisséo qui, avec la loi LOM, s'est trouvé en compétence par rapport à ça. Donc, c'est nous qui avons organisé la mutation du système avec les nouvelles stations. Et là, je dois dire que le succès est assez considérable. On était sur une moyenne d'usage de 12 000 jours. Le nouveau système fait plus de 40 000 jours. Et je vous livre un scoop. Vendredi de la semaine dernière, on a battu le record absolu puisqu'on a fait 53 000 usages sur ce vendredi, ce qui est tout à fait considérable. On n'espérait pas tant, hein, mais on est ravis que ça marche aussi bien. Ça nous oblige à être plus efficaces dans l'entretien, etc., etc. On a un opérateur pour ça. Mais ce réseau vélo en libre-service plus l'extension rénovation du réseau fait que le vélo va devenir un élément clé de notre dispositif. Et c'est pour cela qu'on équipe les stations de garage à vélo de plus en plus importants. Sur Matabiogare, on aura un parking à vélo de 1000 vélos. Ça sera le plus gros de toute l'Occitanie et ça sera considérable.
Et concernant les autres moyens de déplacement, les autres mobilités, comme il faut dire aujourd'hui, donc les bus, les réseaux Linéo, il va y avoir beaucoup de connexions aussi avec les nouvelles stations de la troisième ligne.
On travaille beaucoup la transversalité en ce moment. La Linéo 12 a une particularité, c'est que contrairement aux autres qui étaient pénétrants, lui, il est contournant. Et donc, on a toute une politique de gestion de ces dispositifs-là avec d'autres produits comme les lignes express. On a inauguré une ligne express, qui est la ligne Muret-Toulouse. On a triplé la fréquentation. Donc ces lignes-là, il ne faut pas les laisser sans connexion. Il faut les accrocher à notre réseau. Et puis, il y a quelque chose dont on ne parle jamais et qui pourtant, pour nous, constitue un travail important, c'est l'accès en marche à pied. Et donc, on travaille beaucoup sur
le
piétonnier parce que la station, elle doit être aussi accessible par quelqu'un qui se déplace seul à pied. Voilà. C'est un élément qui est souvent négligé, mais qui pour nous est un élément de travail fort. Parce que si on fait faire d'immenses détours aux personnes pour aller au métro, ça n'a pas de sens.
La circulation, les chantiers donc, sont toujours en cours, avec les désagréments que ça peut occasionner. Donc, concernant la circulation et le stationnement dans les secteurs affectés par les travaux de la ligne C, qu'est-ce qui a été mis en place ? Quelles adaptations ont été nécessaires ? Et à partir de là, sous quelle forme ?
Alors, c'est un gros travail qui est fait avec la métropole, hein, puisque c'est la métropole qui a les outils permettant de faire ça. Et donc, quand on voit un chantier, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a eu derrière, en particulier par les services techniques de la métropole, pour aménager les passages des véhicules. Le plus spectaculaire, c'est encore une fois François Verdier. François Verdier, on a bloqué un côté des allées. Dans le prochain été, on va basculer de l'autre côté. Donc on va boucher le système qui est actuellement en place, mais on ouvrira le système en face. Tout cela sera bien organisé. C'est déjà inscrit dans la concertation, etc., etc. Ce sont des phases de chantier qui avaient été définies il y a 3 ans déjà. Hein. Ce n'est pas du tout une surprise. Mais ce sont des éléments qui sont parfois perturbants pour les personnes en cause. Tout cela sera, je pense à François Verdier, une des dernières phases de grand bouleversement. Et on pourra ensuite revenir sur le monument aux morts et le ramener à sa place au centimètre près.
Oui, alors parmi les adaptations qu'il y a eu pour la circulation, il y a eu celle des itinéraires de bus aussi. Hein,
bien sûr.
Obligatoire.
Le linéo 9, par exemple, a été très perturbé par ce dispositif. Le linéo 1 aussi. Ces deux linéos ont été les plus perturbés. Les autres, c'est surtout de l'évitement.
Oui, alors en parlant de désagréments, il a pu y en avoir aussi pour les accès à certains commerces.
Oui.
Donc là aussi, et surtout, c'est la sécurisation qui me semble le plus important.
Alors la sécurisation, mais aussi l'économie de ces commerces.
Bien sûr.
On a une commission qui est au travail depuis le début, et ce sont plusieurs millions d'euros qui ont été injectés pour permettre à ces commerces de passer le cap. Une fois, on est en train de rétablir la circulation dans les deux sens, etc., etc. Il y a eu toute une phase d'accompagnement économique sous couvert du tribunal administratif, parce qu'on s'est associé avec le tribunal administratif, qui nous semblait être la structure la plus adaptée, et des compensations qui ont été versées pendant toute la partie grosse œuvre. Ça va maintenant s'arrêter puisqu'on arrive dans la phase plus confortable. Mais il était important de maintenir le tissu économique commercial et qui ne soit pas trop impacté par ce métro. Ça va être ensuite un atout commercial, mais au moins pour le moment, c'est quelque chose qui ne nuit pas à l'économie des lieux.
Pour ceux qui nous écoutent, qui auraient des difficultés occasionnées par le chantier de la ligne C, parce qu'ils habitent à proximité d'un de ces chantiers, justement, s'il y a des problèmes, s'ils en rencontrent en tout cas, en raison du chantier, est-ce qu'il est possible de contacter des médiateurs ?
Il y a des médiateurs sur place. C'est-à-dire que dès le lancement du chantier, on a mis en place un système lourd de médiation avec pour chaque station des contacts qui sont immédiats. Un médiateur peut venir dans l'heure quasiment sur un site où il y a des problèmes, ça peut arriver. Et puis on a une application sur Tisséo, l'application chantier, qui permet à tout moment de donner la possibilité aux personnes de laisser des messages. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté par rapport à ça. Les médiateurs, c'est quelque chose qui a été mis en place dès le chantier à ligne A et il y a une vraie expérience de Tisséo par rapport à ça. Et je crois qu'ils ont été assez efficaces. On a en plus les 3 maisons du métro, dont celle de François Verdier, qui sont là pour recevoir qui le souhaite.
Alors je signale qu'il y a des médiateurs par secteur en fait du chantier.
Exactement.
Donc il y en a un pour Blagnac, un pour Colomiers, un pour Labège, un pour Ramonville. Et puis il y a Toulouse Nord, Toulouse Sud, Toulouse Est, Toulouse Sud-Est, etc.
Exactement.
Et puis il y a leur nom et adresse mail, et je le signale, c'est important, hein, et ainsi que leur numéro de portable qui sont indiqués sur le site de Toulouse Métropole.
Voilà, on peut trouver l'information sans même venir sur place par ce biais-là.
Alors pour conclure, on est en 2026, les phases du chantier, cette année, ce sont lesquelles ?
Cette année, j'allais dire, c'est la bascule du gros œuvre au second œuvre. Si on veut marquer des événements, c'est ça qui est clé. Et puis la prolongation de la pose des rails, on a commencé à la fin de l'année dernière. On est maintenant sur une phase qui va être une phase assez lourde de pose des rails. C'est l'outil nécessaire hein, pour ce type de chantier. Donc j'allais dire, la clé, c'est la bascule gros œuvre au second œuvre. C'est ce qui sera le plus spectaculaire.
Et la dernière ligne droite, c'est 2027, pour et tout là, ce qui est travaux.
Et on arrivera à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sera sur les tests et sur le fonctionnement du dispositif.
Et les tests commenceront avant la fin de 2027
Ils commencent déjà un petit peu.
C'est-à-dire
qu'ils sont gradués, ils seront très importants en 2027, mais il y a déjà des phases de tests techniques. 2027, c'est la circulation à blanc. En fait, on verra les rames qui circulent, mais elles circulent à vide.
Merci, nous allons conclure cette émission. Merci d'en avoir été l'invité, Jean-Michel Latte. Et merci pour ce point très complet sur le chantier de la troisième ligne de métro, ou plutôt la ligne C, sur les travaux en cours, les phases suivantes, avant la mise en service fin 2028, qui est donc maintenue. C'est la date qu'il faut avoir en tête. Je signale que ces informations sont également disponibles sur le site web de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupré. À la technique, Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.